Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. À quelques jours de Noël où tout est partage et paix et sérénité, normalement, j'ai envie de vous proposer, je voulais vous proposer une belle aventure, un beau livre déjà, à offrir ou à s'offrir, pourquoi pas. Un livre qui va vous faire voyager au-delà des mers, un tour du monde. Un tour du monde où on rencontre les peuples, mais surtout les océans, où l'infini n'a pas de limite, où la peur, la crainte n'existe plus, simplement le vent, le silence de la mer, et puis l'aventure. L'aventure qui a un nom, le trophée Jules Verne. Alors à lui seul, bien sûr, cela exprime bien des voyages, bien des rêves, bien des images. Pour nous parler de cette magnifique aventure, un magnifique livre, je le disais, et puis j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie David. Déjà, on va un petit peu parler de vous. Qui êtes-vous et que faites-vous?
Alors moi, je suis une passionnée.
Oui.
Passionnée de la mer, passionnée des marins, passionnée de la chose maritime, du fait nautique. Et c'est pour cette raison que je suis entrée au musée de la marine il y a plusieurs dizaines d'années. Et je suis chargée des collections de plaisance et de sport nautique.
D'accord.
Donc du fameux trophée Jules Verne.
Et oui. Alors, ce trophée Jules Verne qui existe depuis 1992, qui a été, je dirais, instauré par deux grands navigateurs, la regrettée Florence Artaud, que personnellement j'avais rencontré, que c'était une femme pour moi admirable, et Titian Lamazou, que j'ai également eu la chance de rencontrer. Alors, ce trophée Jules Verne aussi, il y a derrière un artiste derrière ce trophée, avant de parler de l'aventure.
Alors ça, c'est aussi un élément très important pour l'histoire du trophée Jules Verne.
Oui.
Titian Lamazou, dont vous connaissez les talents artistiques,
oui, tout à fait.
Titian avait souhaité que le trophée qui symbolisait ce grand défi autour du monde, que ce trophée soit exceptionnel. Et il avait demandé à Jacques Lang, qui était ministre de la Culture à l'époque, il lui avait demandé de faire une commande publique. Donc trois grands artistes avaient concouru. Et c'est un Américain tout à fait exceptionnel,
Thomas Shannon,
qui a eu l'idée de ce trophée Jules Verne, qui est d'une grande sobriété, d'une grande simplicité, d'une grande modernité, mais aussi qui est vraiment en symbiose totale avec ce que les marins ont voulu. C'est-à-dire que ce trophée, il prend en compte l'humain, il prend en compte le bateau, bien sûr. Aussi les astres, le soleil, la terre et la lune, qui régissent un peu cette histoire des coups de vent, des rythmes de la mer. Et c'est une œuvre qui est en forme de carène de bateau et qui est sur un champ magnétique, que l'on pose sur un champ magnétique. Et ça a donné une dimension étonnante au trophée Jules Verne, très émouvante aussi, parce que lorsque les marins font le tour du monde et qu'ils reçoivent ce trophée, eh bien, on le leur transmet physiquement dans les mains et le skipper et son équipage le posent sur le champ magnétique. Et c'est un moment assez difficile parce qu'il faut trouver le bon équilibre pour poser la carène du trophée Jules Verne. Et ça donne un moment où on s'approprie un petit peu cette histoire. Et c'est un grand moment où l'histoire entre au Musée National de la Marine, puisque le trophée, depuis son origine, est conservé par le Musée de la Marine.
Tout à fait, oui. Alors, comment est venue l'idée à Titian Lamazou et Florence Artaud de faire cette course autour du monde?
En fait, c'était une époque où on est dans les époques, à l'époque en, excusez-moi, je me reprends, nous sommes en 1985.
Oui.
Et les marins sont en escale, de retour d'une course, sont en escale à la Trinité-sur-Mer, qui était un peu la Mecque à l'époque.
Oui.
Et ils ont navigué sur un grand multicoque, William Saurin. Et ce multicoque va arrêter la compétition, c'est surtout son skipper, Eugène Riguidel, parce que le sponsor suit plus. Il n'a pas donné tout son potentiel et les marins sont un petit peu déçus. Les sponsors trouvent que la course au gigantisme, c'est trop. c'est trop dangereux, c'est trop coûteux. Et donc, il va avoir dans ces années-là toute une limitation des dimensions des bateaux et des réglementations plus contraignantes dans les courses. Si bien que les marins veulent imaginer quelque chose en toute liberté. Et il y en a un qui s'appelle Yves Le Cornet, qui est un jeune marin de 25 ans, qui dit « Et si on faisait le tour du monde en moins de 80 jours ?» Alors là, tout le monde s'est regardé, ils se sont dit « C'était peut-être possible ». À l'époque, on faisait le tour du monde en 109 jours, en plus de 100 jours.
En plus de 100 jours. Alors que Jules Verne, c'était en 80 jours.
En 80 jours, oui. Donc, ils se sont dit ça. Ils se sont dit, bah, on va... Ils ont rêvé, ils ont cherché des bateaux.
Oui.
Les sponsors ne suivaient pas, ils n'en trouvaient pas. Et donc, il a fallu attendre les années 90 pour que Titouan et Florence, Titouan Lamazou et Florence Artaud, reprennent cette idée de course, cette idée de défi, plutôt de record. Et ils sont tout à fait légitimes parce que Florence vient de gagner haut la main devant la fine fleur des marins.
La course du Rhum. La course du Rhum.
Et Titouan Lamazou, lui, vient d'achever le tour du monde sans escale, sans assistance, en solitaire, pour le premier Vendée Globe.
Tout à fait.
Donc, ils ont une étoffe médiatique qui leur permet de rechercher des sponsors et surtout d'imposer une nouvelle épreuve. Ce qu'ils font avec beaucoup d'enthousiasme, en consultant les marins aussi fanas qu'eux de l'époque, que ce soit les frères Perron, par exemple.
Oui, Loïc.
Et ils vont créer le trophée Jules Verne. Ils vont le créer et l'officialiser en 1992.
Alors, Jules Verne, je suppose, parce que comme c'est un tour du monde qui a été réalisé en 2017 en 40 jours, hein, il faut quand même le préciser, je suppose qu'ils l'ont appelé Jules Verne par rapport au livre de Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours.
Tout à fait. 100 jours, c'était trop faisable à l'époque. Et puis, il fallait quelque chose qui médiatiquement aussi retienne l'attention du public.
Oui.
Donc, ils se sont dit, et pourquoi pas 80 jours ? Ils y ont réfléchi. Il y avait une calculette qui s'appelait la Tamaya à l'époque, une calculette de navigation. Ils ont tapoté, ils ont rentré toutes les données. Ils se sont rendus compte qu'en allant à un peu moins de 13 nœuds, ils pouvaient espérer faire le tour du monde, les 26 000 milles autour du monde en 80 jours. Et donc, voilà. Donc, ils ont élaboré évidemment un règlement.
Un règlement.
C'était vraiment très simple. Un règlement avec le moins de contraintes possible, le plus de liberté possible, mais en disant c'est à la voile, sur le bateau qu'on veut, avec l'équipage que l'on veut.
Sans escale, sans assistance. Et au départ de Brest.
Au départ, non, d'une ligne imaginaire.
Oui,
entre Brest et international.
International, parce que ça va d'est. Oui, parce que ça part d'est en ouest, en fait.
Voilà. Et il fallait laisser à bâbord Cap Horn, Cap Lewin et Cap. Excusez-moi. Il fallait laisser Cap de Bonne-Espérance, Cap Lewin et Cap Horn.
Et Cap Horn. Les trois caps. Les trois caps, oui.
Voilà.
Les trois caps. Alors, c'est un livre magnifique avec des photos, des textes aussi. C'est vraiment... moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que... Bon, je le suis à chaque fois parce que je suis passionnée de la mer, de ces grands navigateurs. Et puis, en ayant rencontré deux, c'est vrai que ça donne un peu plus d'essence, vous savez, de poids, d'épaisseur à la chose. Mais comment on construit un tel livre? Parce qu'il y a forcément le choix des images, des illustrations, des photos, des textes. Ça doit être une aventure personnelle extraordinaire de faire ce genre de livre aussi.
Alors, pour moi, c'était relativement simple parce que Titouan Lamazou y avait réfléchi il y a quelques années.
Oui.
Je suis l'histoire du trophée Jules Verne depuis le début. J'ai rencontré Florence Artaud et Titouan Lamazou en 1990, lorsqu'ils ont reçu leur Neptune d'or à la suite de leurs deux victoires. Et c'était évident qu'il fallait, au bout de plus d'un quart de siècle, raconter un peu comment ça s'était passé. Alors, pas simplement... évidemment, il fallait retourner aux sources, comme vous êtes une passionnée de Jules Verne, il fallait aller retrouver l'histoire de Jules Verne, et nous avons demandé à Agnès Marcetto, qui est une spécialiste, de raconter ce qu'a été le tour du monde de Phileas Fogg, le
tout à
fameux
fait.
Héros.
Oui. Et Magellan, et Magellan, 500 ans en arrière.
Voilà, ben oui, ça y est, c'est ce bel anniversaire. Oui. Donc on a voulu aussi replacer l'histoire du trophée Jules Verne, du défi du record en moins de 80 jours, dans l'histoire de la navigation. Donc de ces découvreurs qui sont devenus après des marchands, des scientifiques qui faisaient le tour du monde, mm-hmm. ou des commerçants, pour replacer dans le contexte qu'est-ce que ça a été de naviguer autour du monde pour arriver à la plaisance avec Alain Gerbaud, par exemple, qui est le premier Français à avoir fait le tour du monde. Mm-hmm. Comment et pourquoi on fait le tour du monde?
Et
les marins, ces coureurs-là, eux voulaient faire du globe entier leur terrain de jeu. Hein.
Bien sûr, oui. Et puis sur la mer, comment dirais-je, tout doit être différent. L'esprit doit se modifier, l'état d'esprit, les pensées, les rêves. On se retrouve face aux éléments, à des éléments que, en tant que grand marin, on peut maîtriser, mais finalement, la nature fait ce qu'elle veut aussi.
Oh, les éléments, on apprend à être humble.
Oui.
Bruno Perron est parti, il n'était pas sûr. Il pensait qu'il faisait plutôt un repérage. Il n'était pas certain de gagner. Mmh. Il a gagné avec en 79 jours,
oui.
6 heures. Et en fait, il a rencontré jusqu'au gros bastons, essentiellement vers le Cap de Bonne-Espérance, au Cap Horn, où ça a été effrayant.
Oui.
Mais il a eu aussi deux rencontres un petit peu désagréables. La première, c'était avec une baleine, quand il remontait l'Atlantique vers Brest. Et la seconde, ça a été à quelques journées d'arrivée. Il a heurté une bille de bois. Donc jusqu'au dernier moment, dans cette histoire du trophée Jules Verne, dans cette conquête du temps, on n'est pas certain d'arriver.
Bien sûr.
Et lorsque Peter Black, le deuxième équipage Peter Black et Robin Hood Johnson à bord d'Enza sont arrivés en mer d'Iroise, ils ont, Peter Black, ils ont rencontré le plus sale temps. Ils étaient à sec de toile, en remorquant, en laissant traîner des gueuses et toutes sortes d'éléments pour alourdir le bateau et le freiner surtout. Il n'y avait que 3 bateaux pour les accueillir.
Oui.
C'est une véritable tempête.
Oui. Ça a dû être émouvant aussi, j'imagine, sans doute pour vous qui êtes une passionnée, pour Tituan Lamazou, de faire également ce livre avec la pensée, avec l'image de Florence Artaud aussi, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant.
Alors Florence Artaud était une femme exceptionnelle.
Oui,
c'est
oui.
un excellent marin.
Oui.
Très apprécié de ses pairs.
Une grande dame, une grande dame aussi.
C'était une fille. Très, très fidèle en amitié et une fille très tenace. Mmh. Et donc, elle a vraiment porté ce trophée Jules Verne et cette association Tour du Monde en moins de 80 jours, dont elle a été la première présidente.
Oui.
Et elle a assuré jusqu'au bout en allant au départ et aux arrivées des marins à chaque record, à chaque départ, même pour les tentatives, elle était là. C'était assez étonnant de la voir et elle était ravie.
Oui, j'imagine.
Plus on allait vite, plus...
Bien sûr.
Elle était un peu meurtrie. Pas meurtrie, mais elle aurait bien aimé y participer.
Oui.
Et elle, curieusement, les deux fondateurs, en fait, du trophée, n'ont pas pu...
Oui, n'ont pas pu y participer. N'ont pas pu le faire, non. Eh bien, écoutez...
Donc, c'est raconté dans le livre.
Oui, tout est...
On a voulu laisser passer, parler un peu tous les acteurs, que ce soit Jacques Lang,
le ministre de la Culture de l'époque. Oui, tout à fait, oui.
Oui. Que ce soit une spécialiste... une spécialiste de Jules Verne, un grand historien de marine, l'amiral Bélec, pour raconter la façon dont on a conquis les mers, on a fait le tour du monde, un des détenteurs, Jacques Carès, pour raconter comment on gagne le trophée Jules Verne quand on est sur l'eau, comment on se prépare aussi, ça c'est comment on prépare son bateau, un architecte naval nous a raconté l'évolution des bateaux
en
plus d'un quart de siècle,
tout à fait.
Voilà, et puis nous avons raconté les liens entre le musée et le trophée Jules Verne, ses instigateurs, ses marins.
Oui, avec tous les acteurs, tous les protagonistes et les acteurs de cette magnifique aventure depuis 1992. Alors, Parallèlement à ce livre, il y a aussi, parce que tout est lié, cette exposition qui a lieu, je crois, jusqu'en
Alors l'exposition dure jusqu'à
juin 2020, c'est ça.
Janvier jusqu'au 3 janvier 2021.
2021. Ah, donc il y a encore
ça
un an pour les passionnés d'aller courir voir cette magnifique exposition.
Alors l'exposition a lieu au Musée national de la Marine sur son site de Brest.
Oui, de Brest, oui.
Dans une plate-forte militaire remarquable, un beau château qui a des fondations gallo-romaines. Et c'est surtout un château qui domine la rade, là où on voit partir les bateaux et revenir les bateaux.
Alors moi je vous savez, quand je lis un livre, je me pose de tas de questions. Non pas que votre livre n'y répond pas, mais justement il y a plein d'images comme ça, plein de choses qui viennent à l'esprit. Et on le disait tout à l'heure, c'est les 500 ans de Magellan qui est parti également sur les mers à la découverte d'autres choses, d'autres terres. En tant que marin, quand on prend ce genre de défi, dirais-je, est-ce que l'on pense parfois à ces premiers aventuriers, à ces premiers marins qui ont pris la mer et qui ont 500 ans avant fait ce trajet, fait ce défi, alors sur des bateaux autres, hein, sur des galions, sur des magnifiques bateaux bien différents, mais certainement rien à envier aussi aux bateaux d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'ils y pensent, qu'ils rentrent dans les pas, ils prennent les empreintes de ces grands navigateurs, de ces grands aventuriers finalement?
Je peux vous dire oui, avec beaucoup d'assurance en ce qui concerne les pionniers. C'était Bruno Perron, Olivier de Kersauzon,
Peter Bleck.
C'est vrai que les marins, à l'époque, avaient été sensibles à ceux qui les avaient précédés. Mais les navigateurs d'aujourd'hui sont peut-être un peu plus des compétiteurs.
Oui.
Et le monde de la compétition, de la course au large a changé. Qui n'empêche qu'ils reviennent tout aussi émus par le vol d'un albatros dans les 50e rugissant.
Hein. Oui.
Mais et maintenant, si je pense qu'ils connaissent, parce que évidemment, ce n'est pas anodin que courir le trophée Jules Verne. Il y a Jules Verne et Jules Verne qui n'en a pas entendu parler à défaut d'en avoir lu les ouvrages quand on était jeune.
Tout à fait. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que au-delà de ces premiers aventuriers il y a 500 ans, on rentre aussi dans l'histoire de Jules Verne avec Phileas Fogg. Vous savez, ça fait un petit peu, je sais pas, c'est bon nombre d'auditrices, auditeurs ont sans doute vu et regardé Mary Poppins, quand on rentre dans le livre d'images. Et là, je me suis dit, on rentre à la fois, on est sur les traces de ces grands navigateurs, et en même temps, on rentre dans le livre de Jules Verne, on s'inscrit dans les pages et on fait partie de l'image. Vous voyez un petit peu c'est ce à quoi je pensais également. Ce doit être émouvant, d'une certaine façon.
Enfin, c'est un défi exceptionnel. C'est un défi qu'on n'est pas sûr de conquérir.
Oui.
Sur la trentaine maintenant de tentatives, il y a simplement 9 records.
Oui, 9 équipages. Oui, qui ont.
C'est 9 et 9 équipages ont battu le record.
Battu le record, oui.
Et là, actuellement, Spindrift a tenté et n'a pas réussi. Et a essayé de repartir, a eu un problème technique. N'est pas parti, c'est revenu au port. On voit que ce n'est pas simple de préparer non seulement la monture, le
bien
bateau,
sûr,
mais aussi de constituer son équipage et aussi de faire ce tour du monde sans encombre.
Oui.
Parce que la force des éléments est là et puis les mauvaises rencontres que peuvent être un ovni ou bien la glace ou bien simplement le mauvais temps et pas
et puis
pas
il faut
de mériter.
Et il faut rappeler que c'est sans escale et sans assistance. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Est-ce que, au-delà, bien sûr, de la préparation du bateau, de la recherche des équipages, c'est-à-dire la préparation matérielle, est-ce qu'il y a une préparation physique et psychologique de la part de ces grands marins?
Alors, actuellement, oui, effectivement, il y a beaucoup plus une préparation physique et mentale. Ce qui nous a amusé lorsque nous avons préparé l'exposition avec mes co-commissaires, ce qui nous a amusé, c'est de voir qu'avant, ils y allaient, c'était c'était des marins, c'était le sens marin, c'était la connaissance du monde de la mer et de ses éléments. Mais maintenant, ils vont même se former ou se préparer en faisant de l'alpinisme. Camas a emmené tout son équipage et il y avait des bons vieux marins qui avaient déjà fait d'autres défis. Jamais ils n'avaient fait ça. Ils étaient confrontés à l'escalade dans la neige. Et ça les a un petit peu désappointés, ces marins bretons.
Mais
maintenant, il y a effectivement une réflexion beaucoup plus importante sur la préparation physique. Mm-hmm. Et ça se traduit aussi à bord par la préparation, par la nourriture conditionnée, qui est calibrée pour chacun, suivant le lieu où on se trouve, que ce soit dans une région chaude ou bien dans les glaces.
Oui.
Tout cela est minutieusement maintenant bien préparé.
Est-ce que l'on peut dire, Sylvie Jacob, que ces grands navigateurs sont des hommes ou des femmes hors pair, hors du commun, avec un état d'esprit différent? C'est-à-dire que sur Terre, ça peut être des gens, on va dire, ordinaires, entre guillemets, mais dès qu'ils mettent les pieds sur le bateau, ce sont des gens qui, hors du commun, un petit peu hors du temps.
Ces marins sont vraiment des êtres exceptionnels.
Oui.
Ce sont des héros.
Oui.
Ce n'est pas anodin que l'on ait mis dans le chapitre qui est présenté en début et qui parle des marins, des détenteurs. On a appelé les héros.
Les héros,
ce sont des héros. Ils sont 69 à avoir fait ces tours du monde.
Oui.
Ce n'est pas simplement les détenteurs du trophée Jules Verne qui sont
des
héros.
Non, ce sont tous les marins.
Qui vont sur la mer.
Voilà, tout à fait. Oui.
Le marin est un personnage, en tout cas, hors norme.
Oui.
Hors norme.
Mais quel que soit finalement la course, que ce soit la course du Rhum, le trophée Jules Verne et bien d'autres, il faut quand même un certain esprit, une forme physique, parce que face à ces éléments, parce que vous le disiez, la mer, la tempête, le froid, les vagues, heurter quoi que ce soit, et Dieu sait s'il y a eu des drames en mer, malgré tout, l'appel de la mer, l'appel du large, vous disiez, aujourd'hui c'est un peu plus de compétiteurs, mais malgré tout, je suppose que ça reste avant tout l'amour de la mer et de l'aventure aussi.
Je crois que c'est aussi le goût de la performance, le goût d'aller plus loin dans ses limites.
De se dépasser, le dépassement de soi-même également.
Oui, mais c'est la vie en commun, parce que un équipage, ça se crée aussi au fil des jours. Hein.
Mm-hmm.
Et ce n'est pas parce qu'on met moins de jours que c'est moins difficile. Au contraire, les machines sont beaucoup plus brutales, beaucoup plus bruyantes, beaucoup plus acérées. Donc, c'est presque plus dangereux aussi.
Mm-hmm.
Il faut être extrêmement bon marin pour réussir un trophée. Ça ne s'improvise pas.
Tout à fait.
Un tour du monde ne s'improvise pas.
Non. Est-ce que l'entourage de ces marins, pour ces marins, est essentiel également? Quel que soit l'entourage technique, matériel, amical, familial, est-ce que c'est essentiel?
Vous savez, je pense que comme tout professionnel, lorsqu'on va, c'est leur travail, lorsqu'on se prépare, on fait abstraction de certaines choses.
Oui.
Je pense que c'est avant tout des grands professionnels, mais qui mentalement également sont extrêmement solides.
Oui. Alors parlez-nous un peu de cette magnifique exposition, donc on le rappelait, qui est actuellement et qui sera à Brest donc jusqu'au 3 janvier 2021. Expliquez-nous un petit peu la genèse de cette expo et ce qu'on peut y voir. Voilà. Dites-nous un peu.
Alors, pourquoi a-t-on fait cette exposition? Parce qu'on avait envie de raconter ce que nous avions envie de raconter, l'histoire du trophée Jules Verne un quart de siècle plus tard.
Oui.
Nous avions aussi envie de ne pas mettre, nous avions envie de présenter le trophée Jules Verne parce qu'il est habituellement dans les galeries du Musée national de la Marine à Paris.
Oui.
Or, le musée de Paris, notre établissement de Paris, vient de fermer ses portes pour des grands travaux. Donc, nous avons choisi de le mettre là, au lieu le plus légitime qui soit, ce lieu de Brest, port des records, Brest qui voit s'élancer les bateaux et revenir les bateaux qui tente ces grands records, et dont ce record du trophée Jules Verne. Et autour de l'œuvre de Tom Shannon, nous avons voulu montrer aussi l'histoire, comment elle est née, comment elle se place dans l'histoire de la conquête des mers,
oui,
et comment on fait pour partir, et quels ont été ces grands acteurs. Mmh. Et c'est ça qui est très émouvant, parce que c'est une aventure humaine formidable,
oui,
enthousiasmante. Quand on rentre à l'exposition, on peut aller plus loin parce qu'il y a des petits audiovisuels, mmh, images d'archives ou d'interviews des acteurs du Trophée Jules Verne,
oui,
qui permet de replacer aussi dans le contexte de l'époque, mmh, et puis d'en savoir plus.
Mmh.
Quand nous entrons dans l'exposition, nous avons des documents qui ont trait à Jules Verne. Jules Verne, qui était un romancier incroyable.
Oui.
Le Tour du Monde en moins de 80 jours a été son best-seller.
Tout à fait.
Et on raconte aussi qui était Jules Verne et sa passion pour la mer.
Mm-hmm.
Il a eu 3 bateaux, dont,
oui,
un très grand steamboat d'une trentaine de mètres.
Oui.
Et puis, on raconte ce qu'a été l'impact de l'histoire du Tour du Monde en 80 jours, ce beau roman.
Mm-hmm.
Et l'impact, et puis aussi tout ce qui a été fait autour de lui, que ça soit des pièces de théâtre, des pièces, des opéras, que ça soit aussi des produits dérivés, des
tout
jeux.
Fait.
Donc, on raconte tout cela. Et puis, on arrive aussi au plus beau des produits dérivés, qui est le trophée Jules Verne. Donc, on raconte comment il a été créé, par qui, comment il a été dessiné, comment il a été imaginé par Tom Shannon et comment il se transmet. On n'a pas voulu également ne pas inscrire le trophée Jules Verne sans le situer dans l'histoire de la conquête des mers. Donc on repart sur une grande map monde où l'on voit le tracé de Magellan et puis le tracé de Phileas Fogg. Alors là, c'est plutôt au niveau de l'équateur.
Au niveau de l'équateur.
Et puis le tracé de ces héros que sont les marins.
Les marins, les navigateurs.
À la du trophée Jules Verne.
Mm-hmm.
On raconte aussi dans une large fresque quelles ont été les grandes figures. On parle de Bougainville,
oui,
on parle de Josias Locum,
mm-hmm,
premier homme à faire le tour du monde en solitaire. On parle de Alain Gerbaud, on parle aussi du commandant Bernico, qui a été,
oui,
le deuxième Français à faire en solitaire le tour du monde.
Mm-hmm.
Et puis on parle des courses, comment elles ont été créées, des courses en équipage, avec escale, sans, mm-hmm, escale, pour arriver au trophée Jules Verne.
Donc
on rentre dans le vif du sujet. On raconte, pour faire un trophée Jules Verne, il faut un bateau.
Faut un bateau.
On raconte comment se créent les bateaux.
Un équipage, des sponsors.
Se
préparer, tout à fait.
Il faut préparer à terre et en mer.
Mm-hmm.
Comment on vit ce tour du monde. Qu'est-ce qu'on rencontre. Quels instruments. En quels matériaux sont nos bateaux,
oui,
les bateaux, ce qu'on mange, comment on se protège.
Comment on vit, la vie à bord.
Du froid, comment on navigue, en fait. Et puis, on termine par un grand écran sur les arrivées à Brest, en fait, des vainqueurs. Comment Brest se met en liesse pour accueillir les marins. Et puis, au centre, il y a aussi un grand espace qui est consacré à qui présente toutes les maquettes de tous les bateaux qui ont gagné le trophée Jules Verne.
D'accord.
Catamaran et trimaran.
D'accord.
Et une grande fresque aussi également nous raconte défi par défi les tentatives et le record et avec les équipages et raconte aussi quels ont été les moments forts de chacun de ces défis. Et enfin, pour conclure, Titouan Lamazou a réalisé des portraits remarquables,
oui,
non pas des 69 marins héros du Jules Verne, mais en tout cas de tous les skippers qui ont mené à la victoire ces équipages.
Oui, c'est vrai que Titouan Lamazou a un magnifique coup de crayon, il a fait de magnifiques albums sur des portraits de femmes, notamment à travers le monde. Nul doute que ses dessins sont également magnifiques. En tout cas, c'est sans doute une très belle exposition, donc j'enjoins à chacun, pourquoi pas durant ces vacances scolaires prochaines, au moment de Noël, d'y aller. Moi, je vous enjoins à acheter, ou à offrir, ou à s'offrir ce magnifique livre sur le trophée Jules Verne aux éditions Gallimard. C'est vraiment très bien documenté, de belles images, et puis nul doute qu'avec cette belle émission que vous nous avez offerte, sans doute que chacun sera content et heureux de, au travers de cette émission, d'acheter le livre. Je vous souhaite à vous et à tous nos auditrices, auditeurs, de belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël à tous, en espérant que vous trouviez chacun dans vos foyers, avec vos familles et amis, la paix et la sérénité en ces temps un peu agités. En tout cas, c'est ce que délivrez-vous et ces deux ailes, nous vous souhaitons. Merci Sylvie David. Ben, j'espère à une autre fois. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir répondu présente à cette invitation. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine fois.
Oui, au revoir.
Merci, au revoir.